Culture, la nuit, un patrimoine radiophonique. Ah, l'Académie française. Comme on aime s'en moquer, à moins que l'on veuille s'y présenter et commencer le plus tôt possible à faire ses visites. Le 16 octobre 1991, Olivier Germain-Thomas proposait un tire-talangue consacré à l'Académie française, son dictionnaire, son élaboration, sa valeur de référence. Maurice Druon était son invité, Maurice Druon qui vient de disparaître le 14 avril 2009. Mia 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 mia
tire-talangue. Olivier Germain-Thomas. L'Académie et la langue, Maurice Druon. Académie. Le mot désigne d'abord un jardin. C'est dire si le lieu se veut plaisant, sans pour autant qu'il soit entendu qu'une grande action s'y joue. Et pourtant, lorsque Richelieu fonda l'Académie française, autrement dit un jardin d'hommes libres, il avait bien l'intention qu'elle fût offensive en faveur de la langue française. Elle le fut, puis elle le fut moins. L'est-elle redevenue? Pour le savoir, le mieux est de s'y rendre, et là, d'interroger celui des immortels qui est chargé de faire une symphonie des 40 énergies présentes, le secrétaire perpétuel, Monsieur Maurice Druon, ancien élève de l'école de cavalerie de Saumur, ancien ministre des Affaires culturelles, auteur des Grandes Familles et des Rois Maudits, co-auteur du Chant des Partisans, homme de conviction et d'énergie. Si l'on connaît le dictionnaire de l'Académie, qui n'est cependant guère lu, on oublie souvent le rôle joué par l'Académie en faveur de la francophonie, notamment en parrainant l'Université internationale de langue française au service du développement africain à Alexandrie d'Égypte, dite Université Senghor, du nom de l'ancien président du Sénégal, membre de l'Académie française. On retrouve l'Académie lorsqu'il s'agit également des sommets des chefs d'État et de gouvernement ayant en commun l'usage du français qui réunit maintenant 42 pays. Nous en parlerons. Nous écouterons également la chronique de Philippe Barthelet. Nous entendrons une enquête d'Olivier Collardel qui a laissé traîner son micro pour savoir ce qui se dit et ce qui se pense de l'Académie. Voici donc ce tire-talangue réalisé par Daniel Finot. En ouverture, nous ouvrons avec Maurice Druon les jeunes fascicules d'un ouvrage vénérable, le Dictionnaire de l'Académie française.
Le dictionnaire est lent. Ses éditions paraissent à un grand espace de temps. Vous savez, on ne peut pas aller vite dans la réforme de la langue ou dans l'enregistrement des modifications de la langue. Le dictionnaire de l'Académie est le dictionnaire de l'usage, précisons bien, du bon usage. Alors, au XVIIe siècle, on considérait que le bon usage était celui de la cour. Il est rapidement devenu celui de la ville. Mais ça, c'est l'affaire de la pomme d'arrosoir. Cela doit venir d'en haut. La cour, ce n'est presque plus maintenant que l'Académie française. Je veux dire par là, et seulement les hommes qui, de génération en génération, et se transmettant les attitudes, les habitudes en face du langage, sont ceux qui, justement, enregistrent dans l'usage ce qui leur paraît conforme au génie de la langue et exclut ce qui leur semble tout à fait impropre. Il ne faut pas trop se hâter de faire, par exemple, entrer certains mots dans le dictionnaire. Il y a des mots qui sont nés de la dernière pluie, mais qui passeront au premier soleil. Il ne faut pas se précipiter sur l'argot, car rien n'est plus sensible à la mode que l'argot. Alors un mot d'argot qui tient 50 ans, celui-là, il faut qu'il entre dans le dictionnaire avec la mention « argotique ». Le dictionnaire présent, la 9e édition, dont nous avons commencé il y a quelques années la publication par fascicule, est probablement l'édition la plus difficile à établir depuis la première. Il avait fallu beaucoup de temps aux premiers académiciens pour faire leur premier dictionnaire. L'Académie a été fondée en 1635. Elle n'a sorti son premier dictionnaire qu'en 1694. Et il est tout à fait différent des éditions suivantes. Celle-ci le sera bien davantage, même par rapport à la 8e édition. Simplement une question de longueur. Le dictionnaire précédent était en 2 volumes. De 7 à 800 pages chacun. Le présent dictionnaire, dont le premier volume sortira l'an prochain, sera en 3 volumes de même épaisseur. Cela signifie qu'il y a un tiers du dictionnaire constitué par les mots nouveaux ou par les extensions de sens, car des mots anciens prennent de nouveaux sens. Alors comment se fait le dictionnaire? Comment se fait le dictionnaire? Il est d'abord, chaque vocable, chaque terme est étudié d'après les définitions antérieures par le service du dictionnaire. Ensuite cela passe devant la commission du dictionnaire, dont on dit un peu que c'est le sein des saints de l'Académie, c'est-à-dire une 12aine d'académiciens, qui veulent bien travailler, à tout le moins, durant 2 commissions chaque semaine et d'au moins 2 heures chacune, à réviser le travail. Et puis ensuite, cela passe devant l'Académie dans son plénum, jeudi, et ensuite, c'est encore revu par la commission pour les dernières mises au point. Savez-vous que quand nous sommes en désaccord pour accepter un mot, nous votons. C'est comme des articles de loi. C'est à la majorité. De même pour les définitions, pour les exemples. S'il y a un désaccord entre nous, nous votons. Et un mot peut être rejeté par 15 voix contre 12. Il m'a fallu personnellement 2 ans pour faire entrer le mot « désinformation » dans le dictionnaire de l'Académie. Or, Dieu sait que c'était un mot utile, nécessaire, indispensable, venant d'ailleurs d'une racine française, mais utilisé en russe, « désinformatsiya », mais on ne l'employait qu'entre guillemets. Des informations n'étaient employées qu'entre guillemets. Du jour où nous l'avons admis au dictionnaire et où nous l'avons annoncé, nous en avons fait un communiqué, eh bien, cela a libéré non seulement les journalistes, mais les services de défense, qui eux savaient très bien quel emploi en était fait et quelle réalité cela recouvrait, et dans les services d'autres pays.
Alors vous posez, monsieur le ministre, le problème de l'autorité de ce dictionnaire, puisque si chacun reconnaît la compétence de ceux qui le font, il est évident que compte tenu du rythme, et raisonnablement vous nous avez expliqué pourquoi ce rythme devait être lent, mais compte tenu du rythme et compte tenu du fait qu'il y a maintenant bien d'autres dictionnaires que celui de l'Académie.
Bien d'autres, et certains excellents.
Et certains excellents, et qui de plus...
Et nous ne les ignorons pas. croyez pas, nous regardons justement ce qui a été imprimé, ce qui a été étudié, aussi bien par le Robert, par le Trésor de la langue française, par le Larousse, par d'autres, par le Grévis. Tout cela, justement, nos services l'étudient, et quand nous sommes en commission, nous avons sous les dictionnaires étalés devant nous.
C'est cela. Alors, lorsqu'il y a un mot nouveau, comme des informations qui est accepté par vous, ou parfois, nous verrons cela plus tard, des mots issus des différents pays francophones que vous acceptez dans le dictionnaire de l'Académie, le grand public est au courant, parce qu'il s'agit là, en quelque sorte, d'une curiosité. Mais sur l'ensemble de votre travail ne touche malheureusement pas le grand public, comme les autres dictionnaires le touchent.
Mais il touche les autres dictionnaires.
Qui s'en inspire ?
Ah, c'est...
En avez-vous la preuve ?
Oui, oui, nous en avons la preuve. C'est un peu le dictionnaire de référence. C'est le dictionnaire du goût aussi. Et cela compte dans une langue, le goût. Il y a la précision, il y a l'exactitude, mais il y a le goût. Et c'est surtout le dictionnaire qui est destiné, à mon avis, à donner bonne ou mauvaise conscience. Nous n'avons pas la prétention d'imposer... Nous ne pouvons pas dire à chaque Français, vous devez parler, ou chaque francophone, vous devez parler selon le dictionnaire. Non. Mais on leur donne le sens du péché. Et on va le leur donner de plus en plus, parce que, comme il semble que les mentions populaires, familières, vulgaires, argotiques, triviales, ne sont pas assez dissuasives, nous allons mettre sur certains mots, sous certains mots, une remarque en caractère bien évident, il ne doit pas être employé, ou il est bas. Je vous dis encore une fois, c'est le sens du... donner le sens du péché. Vous pouvez commettre le péché, mais au moins sachez que vous le commettez.
Quelle est votre ligne à l'égard des mots d'origine étrangère, et notamment... des mots qui nous proviennent de l'anglais.
Alors écoutez, les mots d'origine étrangère sont toujours entrés dans la langue. Il y en a toujours un certain nombre à chaque génération qui sont entrés dans la langue. De même qu'il y a un certain nombre de mots français qui sont entrés dans d'autres langues. Vous savez, la querelle avec l'anglais me semble une mauvaise querelle. Nos langues ne doivent pas être des langues adversaires. Ce sont des langues alliées. Ce sont les deux langues qui véhiculent les valeurs de liberté et un certain nombre des valeurs qui ont permis à l'Occident de devenir ce qu'il est et, je dirais, sur lequel l'ensemble du monde s'est plus ou moins construit, du monde moderne. Alors l'important n'est pas de se battre contre la langue anglaise, mais de se battre pour la langue française. Je ne vois pas pourquoi je m'interdirais d'employer, ou comme le faisait Stendhal ou tant d'autres écrivains, quelques mots anglais ou quelques formules anglais dans ce que j'écris. Qu'il y ait un pub Winston Churchill ne me gêne pas tant qu'il y aura un café de Paris à Londres. Si vous prenez le dictionnaire de Fowler, qui est le dictionnaire qu'affectionnait particulièrement Churchill, qui, Dieu sait, écrivait d'un anglais admirable et parlait un anglais admirable. Il y a 10 ou 12 pages sur les expressions françaises habituelles en anglais et celles qui sont normales, de bon goût, justes, qui peuvent être usitées, celles qui sont un peu trop recherchées, ou qui sonnent mal, ou qui, comme le dit Fowler, décorent de manière incongrue une phrase anglaise.
Alors là, nous retombons en quelque sorte dans l'esthétique, c'est-à-dire que, et vous parliez tout à l'heure, monsieur le ministre, du goût, c'est donc une question de mesure et de goût qui fait que vous acceptez certains mots et vous en refusez d'autres.
Exactement.
Donc plus une question de tact qu'une question scientifique.
Voilà. D'autre part, si il y a un bon mot français pour dire quelque chose, il est inutile d'employer un mot anglais. Cela est sot, ce n'est qu'une sorte ou d'ignorance ou de vanité. Ce n'est pas exactement un, un, un mot anglais que de dire abribus. Non, mais c'est une formation anglaise. C'est une manière de construction de mots qui est anglaise. Moi, je trouve que le mot daubette est beaucoup mieux. Alors, reprenons-le. Faisons ce que font les Belges ou les Canadiens qui emploient le mot daubette. Les mots bougent. Plus important, beaucoup plus important encore que les mots, sur lesquels nous sommes très attentifs, encore une fois, à ne laisser entrer que des mots qui n'ont pas d'équivalent. Et Dieu sait s'il y en a, avec toutes les techniques modernes. Bien sûr, par exemple, je fais une incidente, bien sûr, il vaut mieux écrire télécopie que fax. Mais vous ne pourrez pas empêcher que fax est un mot plus court, plus vil. Et puis on dit un fax, ça rentre en français comme tramway. Ça rentre en français comme cravate. Cravate, ça veut dire croate. C'était simplement ce que les régimes, les soldats du royal croate portaient autour du cou. C'est devenu la cravate. Un dictionnaire, une langue, ne se détériore pas parce qu'elle admet des mots étrangers, parce qu'elle admet baraka, ou qu'elle admet kimono. Là où elle se détériore, c'est si on ne respecte plus sa syntaxe.
Syntaxe, oui.
Ou si dans les néologismes, on ne respecte plus le génie de la langue pour former les mots. Alors, c'est tout cela qui doit apparaître à travers notre dictionnaire et dans la rédaction même de nos définitions ou dans les exemples que nous donnons.
Alors il est évident que la francophonie présente un vivier considérable de mots nouveaux, d'expressions qui sont souvent d'ailleurs savoureuses, extrêmement colorées.
Oh.
Et vous avez publié des mots de la francophonie qui sont retenus par l'Académie française, vous avez fait cela en 1989. Parmi ces mots, on retrouve « aubette » qui vous est cher, à la place d'abribus, donc nous l'utiliserons désormais. J'ai noté « encenserie » qui est entré en
« essence ».
« Essencerie ».«
Essencerie » plutôt « station-service
oui. ». Qui est rentré en 1988. Et puis alors, pour remplacer un mot anglais, vous préconisez par exemple « traversier » à la place de « ferry boat ».
Oui, mais ce mot « ferry boat » est tellement dans la langue française que, qu'est-ce que vous voulez comment voulez-vous qu'on ne garde pas « ferry boat » dans le dictionnaire alors qu'il y a « pagnol » et le « ferry boat » de « pagnol ». Mais en revanche, au lieu de ce mot « pins », qui est vraiment assez ridicule, il y a un merveilleux mot français, c'est « épinglette ». Il est utilisé dans plusieurs pays, et je crois que nos discrètes protestations, nos admonestations aimables, font que tout de même les Français commencent à se rendre compte que le mot « épinglette » est extrêmement joli.
Beaucoup plus joli, et en plus c'est un mot vraiment qui existe, tandis que le mot « pins » n'est même pas un mot anglais.
Oui, même pas.
C'est une fabrication à l'anglaise qui a été faite pour avoir l'air d'eux.
Oui.
C'est le vraiment avoir l'air d'eux.
Oui. Oh, mais combien de mots avons-nous, combien de mots a-t-on forgé qui ressemblent à des mots anglais et qui n'en sont pas? Le footing n'existe pas en anglais. Mais c'est une matière tout à la fois sérieuse, mais également extrêmement plaisante que la vie du langage. Et je dois vous dire que les séances de la commission du dictionnaire sont parmi les réunions les plus gaies, les plus joyeuses. Cela va peut-être modifier notre image, auxquelles j'ai participé. Nous prenons, les membres de la commission du dictionnaire prennent une sorte de délectation à leur rencontre, à leur retrouvaille, et à l'étude mot après mot. D'autant plus que au fil de l'alphabet, les mots, il y a les chocs les plus cocasses entre un mot et le suivant. On a eu un mot de théologie, et puis après ça, c'est un mot de cuisine. Et c'est un très grand plaisir de l'esprit.
Les questions qui touchent la langue sont manifestement des questions d'ordre politique. D'abord parce qu'il s'agit de la substance même de la France et parce qu'il s'agit du rayonnement de la France. Il est évident qu'on ne pourra défendre la langue française que si l'enseignement en France est digne de notre tradition et s'il y a des organismes capables de défendre la langue. Parmi ces organismes, il y a le Conseil supérieur de la langue française dont vous êtes membre, monsieur le ministre.
Oui. Le Conseil supérieur répond à une nécessité. On pourrait dire qu'il y a un Conseil supérieur de la langue française depuis 350 ans, c'est l'Académie. Mais l'Académie n'a pas vocation de se charger de tout. Les problèmes de la langue, vous le dites très justement, sont des problèmes politiques au sens le plus haut du terme. S'il n'y avait pas eu une vue politique chez Richelieu, l'Académie française n'aurait pas été créée. Vous savez, la langue d'un pays, c'est son âme. Et Philippe Barthelet, qui participe à cette émission, écrivait il n'y a pas si longtemps, je le cite de mémoire, « L'Académie veille sur nos mots et donc en partie sur notre âme. » Ce n'est pas une vue assez flatteuse, mais pas si fausse, et qui correspond assez à la définition de Valéry pour l'Académie française, enfin la définition idéale, une conscience éminente veillant sur la cité. Mais c'est à travers les mots, l'emploi des mots, le sens des mots, que l'on veille sur la cité.
Et vous n'êtes pas favorable à l'intervention politique sur l'usage que les Français en font, même si la politique peut avoir une influence d'une manière générale sur la vie du langage. Vous n'êtes pas pour que la langue se décrète.
Non, mais on ne peut pas décréter la langue. Elle est le fait de l'usage. Mais on peut tout de même veiller à son bon enseignement. Et là, hélas, il y a depuis un certain nombre d'années beaucoup à dire. Et la détérioration de l'enseignement du français, c'est une détérioration du pays. Il y a l'enseignement à l'étranger, quand il relève de nous. Et là aussi, c'est une affaire d'importance politique, je dirais, nationale, et de politique humaine. Car le français n'a pas fini de rendre des services à l'humanité. Le français est, parmi les grandes langues vivante, la langue la plus précise et la plus claire. Elle est l'héritière de la méthode grecque et de l'efficacité romaine, c'est-à-dire les deux vertus qui ont fait l'Europe ce qu'elle est. La langue française est la langue de l'éthique, du droit, des traités, des conventions, des contrats. Là où il faut avoir exactitude parfaite. Or, les formes multiples de sa syntaxe, son caractère analytique, font qu'il y a une forme pour rendre chaque nuance de la pensée. En cela, la France, le français est irremplaçable, je le maintiens. Cette fille aînée du grec et du latin véhicule d'abord intrinsèquement toute la mémoire de la civilisation européenne depuis ses lointaines origines. Et si vous voulez une preuve de son caractère irremplaçable, je vous la donner. C'est la résolution 242 des Nations Unies. Si c'était le texte français qui avait constitué le texte de référence, il n'était pas possible de dire territories. Il fallait dire les territoires occupés ou des territoires occupés. Et on ne serait pas depuis 20 ans sur cette ambiguïté criminelle d'où sont sortis le malheur libanais, les refus israéliens, les révoltes palestiniennes, le fanatisme iranien et même, d'une certaine manière, le surarmement irakien. On aurait probablement évité des dizaines de milliers de morts, des situations de haine effroyables, et on serait épargné beaucoup de malheurs.
Mais pour que le français rayonne dans le monde, il faut d'abord que les Français y croient chez eux. Or, comme vous le rappeliez, il est évident qu'il y a eu, peut-être y a-t-il maintenant quelques signes d'amélioration, mais il y a eu manifestement une très grande dégradation de l'enseignement du français à l'école. Alors, n'est-ce pas là, quand même, le combat le plus important ?
C'est le combat le plus important. Je dois dire aussi, au plus grand véhicule de la langue, que sont les médias, c'est-à-dire la radio et la télévision. Qui entend, l'enfant qui entend parler un français dégradé ou volontairement torturé pour faire rire ou pour attirer l'attention par ces gens qui sont des vedettes sur les écrans, va naturellement les imiter en parlant. L'enfant est un imitateur. Les publicitaires sont de grands responsables. On torture la langue française, on la fait crier. Si ça n'avait pas d'importance, on ne chercherait pas à casser les mots, ou on ne chercherait pas à introduire un mot anglais entre deux mots français et pour faire choc, ou on ne mettrait pas des désinences absurdes. On le fait parce que tout de même le français est encore sensible à sa langue, donc ça le fait réagir. Et donc ça attire son attention sur le produit qu'on veut vendre. Mais enfin, vous savez, la maison qui a mis sur tous les murs « Je positive » pendant des mois, ou bien ceux qui ont mis « Moquettez-vous ne sont pas de bons serviteurs de la langue, donc de mauvais serviteurs de la France. Et finalement, de leurs intérêts économiques eux-mêmes. Nous revenons au Conseil supérieur, qui est une création nécessaire, utile, parce qu'il y a tous les maux de la technologie, il y a la diffusion du français à l'extérieur, il y a maintes et maintes questions qui dépassent les compétences, la raison d'être de l'Académie française, et qui doivent être traitées par la puissance publique, non pas pour lancer des oukases, mais pour avoir des actions. Et c'est à ce titre que je suis content de participer au Conseil supérieur de la langue française, y représentant l'Académie.
Monsieur le secrétaire perpétuel, vous évoquiez tout à l'heure notre collaborateur, l'écrivain Philippe Barthelet. Voici maintenant sa chronique.
La France, qui se rengorge tant de son ancienneté, ne date guère en fait que de Bonaparte consul, du moins pour ses apparences sociales et politiques. Si toutefois l'on accepte l'Académie, l'une de nos très rares institutions à venir tout droit de l'Ancien Régime. L'immortalité de sa devise s'entendra de façon un peu plus qu'allégorique. Pour avoir traversé tant de soubresauts et survécu à tant de passions contraires, il fallait bien que son fondateur eût disposé à son berceau de puissantes et favorables conjurations. Monsieur le cardinal-duc connaissait son monde, c'est-à-dire qu'il connaissait le monde et son prince autant qu'il servait les intentions de la Providence. Pour défendre et illustrer la langue française, qui entre toutes a la mystérieuse vocation d'anticiper la Jérusalem céleste, il fonda une académie visible, celle que l'on voit se réunir depuis 350 ans et plus. Jeté parmi les vicissitudes humaines et littéraires, il lui revient la tâche ingrate entre toutes de dire le juste, à temps et à contre-temps, de fixer la justesse de la langue selon l'oreille, du moins si l'académie reste fidèle au précepte de Vaugelas, le plus éclairé, sinon le plus honnête de ses premiers pères conscrits. D'où le dictionnaire, ses travaux de tous ordres et d'abord sa propre perpétuation dans l'être. Car l'Académie visible est, avant toute chose, ensemble la figure et le rempart de l'Académie véritable, l'invisible, avec laquelle elle coïncide, suivant des proportions connues de Dieu seul et peut-être des manes du cardinal. Cette Académie invisible rassemble les 40 têtes incorruptibles dont parlait Rivarol, ceux qui se taisent lorsque s'époumonnent les trompettes de la renommée. Ils ont aujourd'hui fort à faire et leur silence est assourdissant. Quant à l'Académie siégeante, l'Académie souffrante et militante, ceux qui l'accusent de manquer de discernement dans ses élections, voire de discerner et d'élire à rebours, montrent assez qu'ils n'ont rien compris à sa mission historique. Il est au contraire admirable que Valincourt succède à Racine ou Victor Hugo à Nepomucène Le Mercier. La réversibilité des mérites préside à ces alternances et à des voisinages dont la secrète raison échappera toujours aux déçus, lesquels auront beau jeu de flatter leur dépit en revendiquant le 41e fauteuil. Ce fauteuil-là vit s'asseoir Corneille puis Bossuet, Voltaire puis Chateaubriand, Barrès puis Valéry, académicien parmi beaucoup d'autres. S'il ne suffit pas d'être immortel pour être incorruptible, en revanche, l'incorruptibilité, qui est une grâce, n'est pas toujours incompatible avec l'Académie française. C'est l'honneur de celle-ci que de défendre celle-là en croisant ses 40 épées.
C'était donc la chronique de Philippe Barthelet.
Je suis content de l'avoir entendu. Je suis très attentif à ce qu'écrit, Barthelet. Il a évoqué, tout en commençant, l'immortalité, ce mot « à l'immortalité » qui est notre devise. Nous participons à une immortalité. Ce ne sont pas les académiciens qui sont immortels, ne le sont que pour une durée limitée. D'ailleurs, là, si l'on le prend dans ce sens, même dans l'immortalité, il y a du déchet. Non, ce qui est immortel, c'est la langue. Et je vous assure que c'est un plaisir et de l'esprit et de l'âme que de participer à la défense, à la vie, à la pérennité. Et de cet élément essentiel qu'est le langage et de le maintenir dans son immortalité.
Brice Druon, secrétaire perpétuel de l'Académie française. Monsieur le ministre, il est évident que maintenant, la situation du français a changé du fait que, après l'anglais et seulement avec l'anglais, le français est parlé dans tous les continents et qu'il est reconnu comme étant la seconde langue officielle à l'ONU. L'ensemble de tous ces pays qui parlent le français forment la francophonie et l'avenir de notre propre langue se situe par rapport à ces pays de la francophonie. Tout d'abord se pose une sorte de question un petit peu qui n'est pas du tout secondaire et qui est parfois traitée de manière désinvolte en ce qui concerne le nombre de francophones, car selon les ouvrages que l'on ouvre, on peut trouver le chiffre de 120 millions de francophones, aussi bien que le chiffre de 300, 400, voire 450 millions de francophones. Je crois que sur ce point, vous avez une position assez précise et assez pugnace.
Écoutez, je ne sais pas comment travaillent les démostatisticiens, cette nouvelle espèce apparue dans les marges des universités, nous fournir des chiffres aussi réducteurs pour arriver à 120 ou 130 millions de francophones dans le monde. Alors, si j'ai compris, quand j'ai trouvé dans un atlas dit de la francophonie, publié outre-Atlantique, que sur les 56 millions de Français, il n'y avait que 49 millions de francophones. Alors, quand je lis de telles choses, je me dis qu'il y a des budgets de recherche qui se perdent. Désormais, il faut bien regarder le français en termes de géopolitique. Du moment qu'il y a 41 lors de la première conférence des États ayant en commun l'usage du français. 42 ou 3 à la suivante. Il y en aura 44 au prochain sommet, dit sommet de Chaillot, qui réunira les pays appartenant à cette conférence. Cela devient une affaire vraiment géopolitique. Alors, je ne dis pas que tous les habitants des pays inscrits à la conférence, des pays ayant en commun l'usage du français, ce que je trouve un titre un peu lourd, et je préférerais de beaucoup qu'on dise la conférence des pays ayant le français en partage. Et cela serait plus juste, parce qu'ils ont en partage avec les autres pays francophones, mais ils l'ont aussi en partage avec une langue nationale ou une langue ancestrale. C'est donc un partage, c'est le français partagé dont il s'agit. Eh bien, quand on a 44 pays qui se rassemblent avec comme lien la langue, comme seule raison vraiment de se réunir, c'est la langue qui est le nœud de tout, et il faut simplement additionner les populations de ces pays.
Il est difficile de compter la totalité de l'Égypte ou, pour bien parler sûr, des deux pays qui viennent de nous rejoindre, de la Bulgarie et
oui,
de la Roumanie.
Mais on considère tout de même qu'il y a 30% de Roumains qui parlent le français. Et l'on ne tient pas compte, à ce moment-là non plus, des gens qui sont hors francophonie et qui, soit individuellement, soit en communauté, parlent le français. Je tiens que les pays qui ont leurs lois rédigées en français, qui ont leur monnaie, leur timbre, est marqué en français, qui ont leurs indications routières en français seul ou en une autre ou en deux langues, ben ceux-là peuvent être comptés dans l'ensemble des pays de langue française ou des pays en français en partage. Et alors c'est là où vous arrivez à 450 ou 500 millions. Or un demi-milliard d'hommes et de femmes, un demi-milliard d'individus qui peuvent exprimer les prix, le poids, la valeur, la désignation d'une denrée dans une même langue. C'est un marché énorme. En termes économiques, cela devrait être considéré davantage, même si une partie de ces pays sont de maigres producteurs, pour l'instant, et de faibles consommateurs, pour l'instant. Ils ne le seront pas toujours. D'autre part, un demi-milliard d'individus qui ont, je ne dis pas les mêmes schémas mentaux, mais des schémas mentaux commun par l'usage d'une même langue, c'est une puissance politique et culturelle énorme. Écoutez, c'est le quart des Nations Unies. C'est plus du quart des Nations Unies. Alors, devrions considérer ça avec infiniment d'intérêt. Nous devrions y mettre beaucoup de moyens. Parce que c'est l'avenir d'une partie de l'humanité, l'avenir de la France aussi. Vous savez, tout part du mot de Léopold Senghor. Dans les décombres de la colonisation, nous avons trouvé cet outil merveilleux, la langue française.
Le succès symbolique des sommets francophones est incontestable. Les succès politiques aussi, ils sont substantiels. En ce qui concerne ce qu'on appelle le suivi de ces sommets, il est évident que la machine a quand même un petit peu de mal à se mettre en marche et qu'on s'aperçoit qu'un certain nombre de projets qui sont évoqués au cours de ces sommets n'arrivent pas à devenir des faits concrets. Cela dit, parmi ceux-là, il y en a un auquel vous-même, monsieur le ministre, vous êtes beaucoup attaché, qui est l'université Senghor d'Alexandrie et qui est devenu opérationnel en fin de compte en très peu d'années.
Ah, opérationnel en 2 ans et demi, à partir du moment où le projet a été évoqué. Et ça, nous avons voulu faire une démonstration. J'ai tenu, même à ce que l'on fît une démonstration, l'Académie française a pris l'initiative d'utiliser une générosité italienne.
De fiat.
De fiat. Pour ce projet élaboré, espéré avec le gouvernement égyptien et particulièrement avec le ministre Boutros Boutros-Ghali. Et M. Agnelli a tout de suite compris l'intérêt qu'il y avait à créer une université internationale de langue française et pourquoi ? Pour le développement africain. C'est-à-dire que les matières qui y sont pour l'heure enseignées à des étudiants, des auditeurs du troisième cycle, qui appartiennent tous au troisième cycle, et avec 3 ans d'expérience professionnelle, les secteurs sont la gestion des entreprises publiques et privées, l'administration, la santé, la nutrition et maladies africaines et l'environnement. Il s'agit de former, et en petit nombre, ils arrivent à 100 à chaque promotion, de former de hauts cadres pour l'Afrique. Car de quoi manque l'Afrique ? Elle a des matières premières, elle a d'immenses possibilités, elle a de la main-d'œuvre. Il lui manque surtout de la gestion, il lui manque de bons cadres. Attention, l'Afrique c'est vaste. Le Maroc a déjà ses cadres, mais qui peuvent devenir pour certains professeurs justement à l'université d'Alexandrie. Mais vous avez d'autres régions qui ont des cadres en nombre insuffisant et de formation insuffisante. Il y a aussi une chose qui est ignorée, c'est la relation interafricaine. Tout va d'un pays africain à une capitale européenne et redescend dans le pays voisin, mais de l'un à l'autre. De l'un à l'autre. Voulez-vous me dire pourquoi il faut... Là, je m'avance sur un terrain dont je ne suis pas expert, mais enfin, ça apparaît aux yeux du bon sens. Pourquoi il faut que le chocolat de Côte d'Ivoire, que le cacao de Côte d'Ivoire, aille en Suisse ou en Europe pour être transformé en chocolat, pour revenir dans les autres pays africains et les pays limitrophes. On pourrait peut-être avoir une fabrication sur place et avoir même la possibilité d'une exportation. Bon, je n'entre pas dans les détails. Je dis simplement que l'affaire du français étant une affaire géopolitique, que l'aide aux pays d'Afrique, et particulièrement aux pays d'Afrique noire, étant essentiel pour l'équilibre des continents et pour la paix, nous avons voulu faire une démonstration de ce que on peut faire et vite avec les moyens, avec la contribution des États, certes, avec aussi les moyens de la générosité privée, sans trop passer par l'administratif, les grosses machines administratives. Et comment cela a pu être fait en 2 ans et demi? Vous savez, on parle toujours de lobby. Je n'en connais qu'un. Je n'en connais qu'un qui fonctionne. C'est le lobby de l'amitié. Avec les amitiés, on peut tout faire. Si des lobbies d'amitié se créent autour de la langue française, autour ou à propos des sommets du français partagé, eh bien, il y aura encore de beaux jours pour cette langue et pour les pays qu'elle peut aider. Et nous ne pensons qu'avec des mots. Sans mots, nous ne pouvons pas penser. Et il y a un vieux philosophe grec qui était d'ailleurs un disciple de Socrate, et d'Antisthène, et disait « La maîtrise des mots est le début de la sagesse. » C'est le début aussi de la politique et de l'économie.
Nouvelle séquence, micro-trottoir d'Olivier Collardel.
Je voulais vous demander ce que vous pensiez de la position de l'action de l'Académie française en faveur de la défense de la langue.
J'attends impatiemment la réforme de l'orthographe.
Et vous pensez que l'Académie française a un rôle important à jouer ?
Je pense que oui, c'est quand même... oui, puisque sont quand même eux les gardiens de notre langue. Au final, enfin, dans l'opinion publique, c'est quand même eux, c'est eux qui décident. Ce sont eux qui font les dictionnaires. Ils sont quand même les dépositaires de notre langue pour le public.
On peut dire déjà deux choses. C'est que la langue française est une des langues peut-être les plus anciennes d'Europe, mais il faut reconnaître là-dessus qu'une intrusion de la langue britannique commence à poser de sérieux problèmes à notre pays, à notre culture aussi, puisque cette agression arrive à effacer certains mots de notre vocabulaire, et ceci d'une façon presque irrémédiable, dans la mesure où aucune décision n'est prise au niveau de l'Académie française, je parle du siège de l'Académie française, et que ces habitudes, si tant est que cela puisse être, arrive à pénétrer de nouveau, je dirais, de la société française, de manière à inverser cette tendance qui est, à mon avis, assez désagréable. Maintenant, il faut souligner, et cela est, à mon avis, peut-être plus important, c'est que le français, le peuple français, le français de souche, de base, est bien inférieur et très désavantagé par rapport aux autres populations, dans la mesure où on ne s'exprime que avec une seule langue, c'est-à-dire le français. Nous sommes loin d'être polyglottes comme certains pays.
D'après ce que j'ai pu en savoir, je trouve ça un peu un combat d'arrière-garde, parce que pour moi, une langue, elle vit, elle change, et tout ce qu'on a pu entendre dire ou avoir écrit sur il ne faut pas qu'il y ait trop d'évolution, il faut que ça change, je trouve pas ça très très juste. Alors, il y a toujours eu des influences étrangères, il y a toujours eu des modifications, les Anglais ont pris des mots français, donc dire qu'il faut préserver, non, j'aime pas trop ça. Ça fait un peu, on défend notre gagne-pain, quoi.
Bien évidemment, un jugement positif, mais on aimerait qu'elle utilise davantage les médias pour que les gens soient vraiment au courant. On a l'impression que c'est une information secondaire qui n'intéresse que les gens d'un certain niveau culturel, alors que ça intéresse tout le monde. Je crois qu'il y a 107 millions de gens qui parlent le français à travers le monde. Et si l'Académie pouvait s'ouvrir aussi aux langues francophones africaines, québécoises, etc., ça serait un grand bien.
Vous l'avez trouvé donc dans l'ensemble trop discrète ?
Oui, beaucoup trop, et trop classique. Trop classique, faut pas oublier qu'au 19e siècle, la bien était capable d'accueillir les jeunes romantiques.
Par rapport au dictionnaire, il n'y a pas tellement de... Enfin, il y a un décalage entre l'évolution de la langue effective au quotidien et puis la langue écrite. C'est vrai qu'il y a un décalage énorme. Maintenant, ce qu'il faut faire par rapport à ça, je crois que c'est un travail de terrain, beaucoup.
Si vous voulez, je vois ça un peu comme quelque chose de très... d'assez hiératique, finalement. Sans plus trop de rapport avec la littérature contemporaine. Alors peut-être encore certains rapports avec une langue française, mais une langue française très très statifiée.
C'était sans doute intéressant. Il y a un siècle dans lequel on pouvait éventuellement mettre là des gens qui pouvaient réfléchir sur la culture en France, qui pouvaient travailler, avoir des discussions là-dessus. Mais maintenant, ça paraît vraiment une vieille dame complètement poussiéreuse, qui, en plus, on voit pas trop, bon, mis à part lire les discours des récipiendaires dans Le Monde, quand ils font, si on les lit, parce que généralement c'est toujours très long et très ennuyeux. Mais, mis à part ça, on se demande à quoi ça peut encore servir, puisque même le dictionnaire qu'ils devraient faire, ils le font jamais. Donc, même pour les dictionnaires, ils n'arrivent même pas à faire ça. Donc, on se demande vraiment à quoi ça sert. Et pour le supprimer, ça me dérangerait pas beaucoup.
La vie vert. Une vieille institution et puis du travail, je crois. C'est pas inintéressant de lire les discours de réception des nouveaux académiciens, d'autant plus qu'ils s'ouvrent vers d'autres expressions que la pure littérature, et c'est vrai que c'est agréable de voir un certain nombre de d'historiens, de grands penseurs entrer dans cette maison?
Elle n'a pas de rôle. L'Académie française, en dehors du dictionnaire qui avance lentement, n'a aucun rôle dans la pensée française.
Et vous pensez qu'elle devrait en avoir plus ou que finalement c'est son rôle?
Non, c'est son rôle. C'est son rôle. C'est la réunion de gens de qualité.
Est-ce que j'en pense? Eh bien, c'est une institution pour laquelle je n'ai pas un immense respect. Ça, c'est... Son rôle me paraît totalement vide, totalement nul. On l'a vu récemment avec l'affaire de l'orthographe. Mais surtout, ce qui m'irrite, c'est sa composition, son mode de recrutement et le fait que pour être élu, il suffit d'avoir rien écrit. Enfin, dans 9 cas sur 10. Quoi. C'est...
L'Académie française, pour moi, c'est un mystère. Parce qu'il y a tout de même beaucoup de gens très bien qui n'en ont pas été. Et tout de même pas mal de gens bien qui en sont. Alors, ça sent un peu la poussière. Je trouve que ça... Je crois que ce sera ce qu'elle en fera elle-même.
Alors, comme on le voit, l'Académie française est toujours aimée, mais quelquefois légèrement brocardée, parce que l'image traditionnelle d'une académie de personnes qui n'est pas très active et qui prennent plus plaisir à se rencontrer entre eux qu'à être active, cette image est encore partagée par certaines personnes, malgré tout ce que vous-même, avec vos différents collègues, monsieur le secrétaire perpétuel, vous essayez de faire en faveur de la langue française. Alors, devant ceux qui brocardent amicalement l'Académie française, que dites-vous?
Je dis d'abord qu'ils ne sont pas à l'avant-garde. Et ils sont aussi vieux que nous. L'Académie française, on la brocarde depuis sa création. Je dois dire que les railleries qui nous sont adressées nous maintiennent en présence dans l'esprit public et nos railleurs nous sont consubstantiels. Nous vivons avec eux en très bonne compagnie. Et pour ceux qui nous prennent au sérieux, je pense que l'on comprendra que depuis quelques années, nécessité faisant loi ou nécessité inspirant, regardant le monde transformé, voyant que la France n'a plus la position qu'elle avait au XVIIIe siècle, où la langue française, où tous les pays d'Europe étaient des provinces intellectuelles de la France, et ni même celle d'avant 1940, où tout ce qui intéressait les arts, littérature, avait pour centre Paris, où c'était Paris qui donnait le sacre de la gloire, mais où les échanges sont constants et nombreux entre tous les pays. L'Académie, normalement, est sortie un petit peu de sa coupole, et même beaucoup. Ce n'est pas pour rien qu'un Grand Prix de la francophonie a été créé avec le gouvernement canadien, et qui est déjà a couronné un Libanais,
Georges Chéadé,
un Japonais,
Yoichi Maeda,
un malgache,
et Jacques Rabé Mananjara,
un Canadien,
Hubert Reeves,
et un Égyptien,
Albert Kosri, qui a eu le prix en 1990.
Bon. Oui. Les prix du rayonnement de la langue française sont nombreux, et beaucoup, et je crois qu'ils sont appréciés. Et les actions sont diverses, elles ne sont pas toujours apparentes. Je peux vous dire, par exemple, en ce qui regarde le sommet des pays qui ont le français en partage, l'Académie est toujours invitée, elle a sa valeur de symbole. Après tout, c'est la maison mère. Mais elle est également beaucoup consultée. Nous déplaçons, voyageons. Nous allons voir les centres francophones ici et là, nous sommes présents. Nous faisons pas beaucoup ne faisons pas énormément de bruit, enfin nous ne battons pas du... On bat le tambour quand nous entrons sous la coupole, mais nous ne battons pas beaucoup le tambour autour de nos actions. Mais ce sont des actions en profondeur. Et dans l'espace aussi. Alors, profondeur et étendue, je crois que nous faisons à peu près notre devoir et notre métier. Mais les perspectives ouvertes par ce qu'on appelle communément la francophonie et ce que je persévère à appeler le français partagé font que pour moi, notre langue reste toujours une aurore.
Ta langue, l'Académie et la langue. Mon invité, Boris Druon, secrétaire perpétuel de l'Académie française. Nous avons parlé du dictionnaire, du sommet des différents pays francophones et, notamment, et également de l'Université Saint-Gore, sise en Alexandrie. Collaboration technique Pascal Dupont, chronique de Philippe Barthelet, enquête d'Olivier Collardel, réalisation Daniel Finot.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 octobre 1991. Rappelons que Maurice Druon est mort le 14 avril 2009.